Vous écoutez France Culture.
Culture d'Islam d'Abdel Wahab Meddeb. L'Iran, nous consacrons encore une autre émission sur l'Iran parce que la situation est grave. Il y a un moment historique important que vit ce pays depuis le 12 juin 2009, depuis les élections truquées présidentielles de cette époque. Il y a un mouvement de contestation, un mouvement civil, un mouvement de citoyenneté, un mouvement pour la démocratie très important, et nous voulons suivre ce mouvement, être près de lui, essayer à la fois de comprendre et dans la mesure du possible, en comprenant, d'aider pour qu'un autre Iran advienne. C'est ce que nous souhaitons de tout cœur. Là, notre émission s'engage en faveur de cet Iran à venir. Et pour ce faire, nous sommes en duplex avec Mohsen Sazegara, qui se trouve à Washington. Mohsen Sazegara, nous l'avons choisi pour nous informer sur la situation iranienne telle qu'elle se trouve aujourd'hui, après de multiples manifestations, notamment la toute dernière ayant eu lieu avec suite à l'anniversaire de la République islamique le 11 février dernier. Mohsen Sazegara n'est pas un leader, mais c'est le coordinateur principal de l'opposition démocratique. Il reçoit, c'est un carrefour qui reçoit nombre d'événements qui viennent de l'Iran et qu'il diffuse à travers l'espace du monde, là où se trouve disséminée l'émigration iranienne. Mais ils informent donc ces multiples Iraniens, ce va-et-vient entre les Iraniens du dehors et les Iraniens du dedans, et ce faisant, ils nous informent nous-mêmes. Et Mohsen Sazegara, actuellement, est chercheur dans un institut de recherche pour l'Iran contemporain, qui est un institut indépendant, une sorte de think tank qui se trouve à Washington. Sinon, Mohsen Sazegara a fait des études d'ingénierie en mécanique et en physique, des études d'histoire aussi. Il est très important parce que il a connu la révolution islamique de l'intérieur. C'est pour cela que notre regard s'est orienté vers lui, très aidé, nous l'avouons, évidemment, par l'Adan Borouman, qui est avec nous en studio et qui va servir de truchement, qui va traduire la parole de Mohsen Sazegara, qui sera en persan, et l'Adan Borouman nous en fera une traduction successive. Un des fondateurs des gardiens de la révolution, Mohsen Sazegara, entrera en dissidence dès la fin des années 80, après une dizaine d'années donc de service à l'intérieur de la révolution islamique. À ce moment-là, il avait créé une maison d'édition qui a cherché à publier des classiques de la démocratie, de la littérature antitotalitaire. Il a créé aussi un quotidien, Jamiri, société de contestation aussi, quotidien qui a été censuré. Il s'est trouvé en prison. C'est donc ce personnage privilégié qui va nous parler, nous informer de ce qu'il en est de l'Iran. Ma première question à Mohsen Sazegara, qu'il nous dise ce qu'il en est de la situation actuellement, alors que nous avons connu, le mouvement a connu une série de scansions depuis le 12 juin, les manifestations après la mort de l'ayatollah Montazeri, qui lui-même était contre, en tous les cas, c'est d'entrer lui aussi en dissidence et a déclaré son opposition à l'imam Khomeini et à ses concepts, particulièrement le concept de Velayat al-Faqih, le gouvernement du clerc qui est au fondement de la République islamique. Et puis par la suite, il y a eu évidemment les mouvements à l'occasion de Ashura, cette fête religieuse en commémoration de la tragédie de Karbala, qui est au fondement un des mythes fondateurs du chiisme auquel adhère évidemment l'Iran. Et tout récemment, nous l'avons dit, les manifestations à l'occasion du 11 février, date anniversaire de la fondation de la République islamique.
Le mouvement vert d'Iran est un mouvement politique et social qui est profondément enraciné dans le pays. Ce mouvement s'appuie surtout sur 31 ans d'échecs du régime et du gouvernement de la République islamique. Ce mouvement, d'autre part, s'appuie sur les tensions de la société iranienne, les tensions dues aux discriminations sexuelles, les tensions dues aux discriminations ethniques, les tensions aussi dues au hiatus entre la science et l'ignorance. Et c'est dans toutes ces tensions qui sont au cœur de la société iranienne que le mouvement puise sa force.
Il n'y a pas aussi une référence, si j'ai bien compris, au Moyen-Âge, que nous avons affaire à des concepts médiévaux, c'est ça l'ignorance, par rapport à la modernité, le hiatus entre ces références médiévaux et la modernité.
Ouais, l'ignorance, mais c'est vraiment une référence à l'ignorance, par rapport à la science et aux lumières et au progrès.
On est encore dans l'esprit du Moyen-Âge, alors que l'époque est ailleurs.
Voilà.
Hamchenin et
Mais aussi, ce mouvement résulte de deux décennies de travail intellectuel sur les droits de l'homme et la démocratie des intellectuels iraniens pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la laïcité. Et c'est un travail de longue haleine qui a commencé il y a 20 ans et qui donne ses résultats aujourd'hui dans le monde.
Et auquel lui-même, Mohsen Sazegara, a dû contribuer par ce qu'il a publié en tant qu'éditeur et en tant que journaliste.
Monsieur Sazegara dit qu'il a, lui, un petit rôle, mais il y a de grands intellectuels iraniens religieux et non religieux qui ont fait un grand travail intellectuel qui a préparé les fondements de ce mouvement dont nous voyons l'action aujourd'hui en Iran.
Lorsque Khamenei est dans un discours récent qui date d'il y a 3 mois à peu près, dénonce l'effet néfaste des sciences humaines comme sciences occidentales et appelle à la nécessité d'islamiser les sciences humaines. Je ne vois pas ce que cela veut dire d'ailleurs. Est-ce que lorsqu'il parle ainsi, il fait référence à ce travail de fond qui a été produit par l'intellectualité, par l'université aussi iranienne et qui a eu donc cet effet considérable sur la société ?
Absolument, c'est tout à fait ça, parce que des gens comme Khomeini ou le clergé dominant en Iran voient dans les sciences humaines un ennemi très sérieux, parce que ce sont ces sciences qui ont axé le discours sur le droit plutôt que sur le devoir, qui est l'axe principal du discours du clergé dominant en Iran. Et c'est donc en Iran, ils ont fait prévaloir un discours fondé sur le droit et les droits des gens plutôt que de leurs obligations et de leurs devoirs.
J'ai 23 ans. J'ai été arrêté en compagnie d'une autre personne le 9 juillet 2009 par 3 agents civils dans la rue Sohrawardi du Nord. Ils nous ont fait monter dans une voiture et se sont mis à nous frapper. Ils nous ont d'abord conduits à la police de la sécurité et des renseignements publics, qui se trouve dans la rue Enkelab. Nous avons été retenus pendant une journée entière, sans manger ni boire. En ce lieu, ils nous ont fait avouer de force que nous étions coupables de toutes les charges qu'ils nous imputaient. Si nous refusions de signer l'aveu de notre culpabilité, ils nous frappaient à coups de câbles ou de tuyaux flexibles. La page indiquant nos crimes était identique pour tout le monde. Action contre la sécurité nationale, désobéissance à l'ordre de la police, propagande contre la République islamique, activité vénale au service des médias étrangers, comme BBC ou Voice of America. Ils nous ont fouillés, puis nous sommes entrés dans la cour. Ils ont pris nos noms et nous ont forcés d'enlever tous nos vêtements. Nous étions tous complètement nus. Puis ils nous ont contraints de jeter nos vêtements à la poubelle. Ils nous ont laissés attendre tout nus pendant 30 minutes. Après quoi, la séance de bastonnade a commencé, avec des tuyaux et des bâtons. Il y avait deux types de tuyaux, flexibles et durs. Les coups étaient très douloureux. Nous étions très nombreux, de sorte que dans un espace contenant 20 personnes, ils avaient entassé 160 personnes. Nous ne pouvions donc pas nous asseoir. Nous devions dormir debout. Une moitié s'asseyait et l'autre se tenait debout. Nous n'avions pas la permission d'aller aux toilettes. Nous nous sommes tous évanouis plusieurs fois. Il y avait une petite ouverture pour l'air, mais le soir on sentait une odeur de gasoil. Il n'y avait pas de fenêtre. Nous avons demandé un peu d'aération, mais il nous a semblé qu'au lieu d'air, ils avaient mis le pot d'échappement d'une voiture à l'embouchure du trou d'aération. Nous avions très soif. La soif, c'était notre grand problème. Les détenus ont demandé de l'eau, mais on n'avait droit qu'à l'équivalent d'un ou deux verres d'eau par jour. Il n'y avait pas de verre. Nous utilisions tous, à tour de rôle, la même bouteille. Un morceau de pain et un quart de pomme de terre par jour. C'était tout ce que nous avions comme nourriture par jour.
Mohsen Sazegara, ce mouvement-là, vous pouvez nous donner quelques informations précieuses sur... sa vivacité, la manière avec laquelle il s'est exprimé pendant ces multiples moments que nous avons évoqués tout à l'heure.
Le mouvement vert, en fait, se développe et s'anime sur quatre principes auxquels M. Moussavi, le candidat malheureux aux élections présidentielles, aussi fait référence. Le premier, c'est l'action non violente. Et le second principe, c'est une organisation non centralisée qui s'organise par l'initiative de chaque militant et qui se constitue par un réseau de relations. Et le slogan principal, c'est que chaque militant est un leader. Et le troisième principe, c'est la légitimation du pluralisme essentiel du mouvement et la reconnaissance de la légitimité des différents qui opposent les différentes factions qui participent au mouvement. Et cette reconnaissance, justement, soude l'alliance qui leur permet de travailler ensemble. Et le quatrième principe, c'est l'insistance sur la liberté des élections qui deviendrait l'arbitre suprême pour la résolution des tensions entre le gouvernement et le peuple et le règlement des différends entre les différentes factions du mouvement populaire.
J'ai l'impression que je retrouve, Mohsen Sazegara, dans ce que vous venez de dire, un certain nombre des points qui ont été présentés par un des grands intellectuels qui appartenait à l'officialité, comme vous-même d'ailleurs, de la révolution islamique qui est entrée en dissidence et qui se trouve, comme vous, aux États-Unis d'Amérique. Je nomme là donc Sorouche. Et la déclaration qu'il avait faite avec d'autres, je crois, quatre autres qui ont signé cette déclaration, où nous retrouvons, une déclaration en une dizaine de points, où nous retrouvons certains des points que vous venez d'évoquer, les quatre points que vous venez d'évoquer étaient là. Et donc là, vous vous reconnaissez dans cette déclaration de Sorouch ?
آقای سروش و چهار نفر دیگه خودشون هم گفتند که
Monsieur Sorouch et les quatre autres signataires de la déclaration à laquelle vous faites allusion se sont présentés comme des intellectuels religieux. Mais on peut, à côté de cette déclaration, se référer à une autre déclaration signée par 50 universitaires et intellectuels et encore une autre déclaration signée par 35 autres personnalités. Des déclarations de ce genre, précisément, où l'on retrouve les quatre principes auxquels j'ai fait allusion montrent bien la diversité des différentes factions du mouvement, mais qui en même temps sont d'accord sur quelques points principaux auxquels Moussavi a fait allusion aussi.
Et donc la bataille avant tout est une bataille pour la démocratie, pour les droits de l'homme, mais aussi pour l'entrée dans le droit positif, l'appel à une autre constitution, cela va de soi, une manière de neutraliser la référence à la charia, à la loi divine comme source de législation. Tout cela entre en jeu, me semble-t-il.
À mon avis, de la constitution actuelle en vigueur en Iran, il ne sortira ni la démocratie ni les droits de l'homme. Mais d'autres, comme M. Moussavi lui-même, pensent que cette constitution a un potentiel démocratique. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'une fois gagnée la première bataille, ce sont les élections qui détermineront qui a raison et quelle voie il faut prendre.
Et en tous les cas, avec votre initiative de ce mouvement lancé, si je ne me trompe pas, en 2006, le mouvement pour un référendum en vue d'une nouvelle constitution, vous l'avez fait avec un avocat et un étudiant de l'intérieur. Vous-même, vous étiez déjà à l'extérieur avec une féministe aussi de l'extérieur, signe qu'il y a donc ce travail solidaire entre les dissidents de l'intérieur et les dissidents de l'extérieur, ce référendum pour l'Iran, cette déclaration pour une nouvelle constitution est plus franchement radicale et elle était annonciatrice finalement des événements tels qu'ils se produisent publiquement en Iran depuis le 12 juin 2009.
Il se peut que cette initiative pour un référendum ait été un signe avant-coureur du mouvement dont nous sommes témoins aujourd'hui. En tout état de cause, nous nous sommes tous accordés qu'une fois le gouvernement d'Ahmadinejad écarté, on pourrait accéder à l'idée de la réforme de la Constitution, du changement de la Constitution, ou bien par un référendum direct où on soumet au peuple la question de voulez-vous cette Constitution ou voulez-vous la changer, ou alors que les candidats qui sont favorables au changement de la Constitution et la possibilité de participer aux élections et d'être élu. Donc, ou bien par le peuple directement, ou bien par les représentants du peuple. Mais ce qui est certain, c'est que la question de la Constitution va se poser immédiatement une fois que M. Ahmadinejad a été écarté du pouvoir.
Et vous partez avec cette hypothèse que écarter Ahmadinejad est tout à fait plausible. Nous ne voulons pas être ni voyants ni prophètes, mais selon l'analyse rigoureuse que vous faites politiquement, on est face à un plausible. Parce que vous voyez, Mohsen Sazegara, tout récemment, j'ai discuté avec un ami algérien qui vivait en Russie et il me disait que dans les années 80, rien ne laissait imaginer que on avait l'impression qu'on était face à un édifice éternel et l'effondrement, en fait, est une immense surprise. Tandis que là, nous sommes dans l'annonce d'un effondrement.
On ne peut pas prévoir un délai précis. Il est difficile de prévoir et de pronostiquer. Mais le mouvement actuel, en se fixant des étapes dans le combat, et la première étant la mise à l'écart d'Ahmadinejad, a aussi fixé des objectifs antérieurs à cet objectif par la lutte non violente. Il y a 4 autres étapes préalables et on espère qu'en réussissant ces 4 autres, à atteindre ces 4 autres étapes, on pourra avoir des chances pour écarter Ahmadinejad. Alors, ces 4 objectifs sur lesquels se concentre entièrement le mouvement vert actuellement sont: premier objectif, saper la légitimité du gouvernement. Deuxièmement, renforcer la solidarité et la résistance nationale. Troisièmement, essayer d'affaiblir le gouvernement par l'usure et ouvrir des brèches dans le bloc et dans la solidarité interne du régime. Et quatrièmement, enfin, paralyser le gouvernement, l'empêcher de gouverner. Et si sur ces 4 voies, il y a un développement consistant et on atteint une limite, une certaine limite, à ce moment-là, on peut être sûr que le gouvernement Ahmadinejad tombera.
Et alors, les informations qui vous parviennent d'Iran et qu'à votre tour vous redéployez à l'échelle du monde, nous savons qu'il y a une migration, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une population iranienne disséminée de par le monde. Elle est très importante, très présente en Europe, très importante, très présente aux États-Unis. Et nous apprenons que là aussi, il y a eu un flux migratoire asiatique vers la Malaisie. Quelles sont ces informations? Comment vous appréciez les informations qui vous viennent en ce moment même d'Iran et la manière avec laquelle ils sont reçus par les Iraniens de l'extérieur, de par le monde, en Europe, en Amérique, en Asie?
Comme vous le savez, la violence d'État s'est intensifiée en Iran avec les meurtres et les viols et la répression. Et ce que nous essayons de faire en ce moment, justement, c'est d'essayer de mettre un terme à ce cycle de violence d'État qui sévit actuellement en Iran. Donc ce cycle de violence d'État, en ce moment, nous déplorons en conséquence 5 000 prisonniers politiques, dont 100 journalistes sont en prison, au moins 170 personnes ont été tuées, et donc par suite de cette violence, il y a une vague de réfugiés qui sortent de l'Iran, et donc nous essayons justement de faire face et d'aider ces réfugiés actuellement. Je pense que la communauté internationale a effectivement un rôle à jouer en facilitant le plus tôt possible le transfert de ces réfugiés en lieu sûr. Ça, c'est très important pour aider le mouvement. Ce sera un grand soutien pour le mouvement démocratique iranien. Et je dois dire que dans les 8 derniers mois, un des États qui a le plus soutenu et aidé les réfugiés et les Iraniens, c'est l'État français. Ce faisant, l'État français a prouvé que depuis 1906, où les Iraniens ont montré pour la première fois leur volonté et leur aspiration pour un régime démocratique, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois où le peuple iranien a voulu réformer et s'est battu pour la liberté, la France a été à ses côtés.
Durant notre détention à Karizak, parfois il surgissait dans les cellules à 4 heures du matin et nous poussait dans la cour où il nous frappait avec des tuyaux. Puis il nous ordonnait de nous mettre en rang et l'officier nous posait des questions et nous devions répondre en chœur. Où sommes-nous? À Karizak. C'est où Karizak? C'est la fin du monde. On y mange bien? Oui, chef. L'ambiance est-elle bonne? Oui, chef. Vous y plaisez ? Oui, chef. Et il disait :
Il faut que tout Téhéran entende votre voix.
Au troisième ou quatrième jour de détention, à midi, ils nous ont conduits dans la cour de la prison. Ils ont obligé la moitié d'entre nous à se mettre à quatre pattes et à porter l'autre moitié sur nos dos. On devait faire ainsi le tour de la cour. Le sol était brûlant. Nos mains et nos genoux commençaient à saigner. Et après 5 minutes, on ne voyait que du sang sur le sol. Je portais un vieil homme sur le dos. Nous avons fait 25 fois le tour de la cour. Si on s'arrêtait, ils nous frappaient. Chacun de nous portait ou une blessure sur le corps ou avait un membre fracturé. L'endroit était si sale et il y faisait une telle chaleur que chaque blessure s'infectait immédiatement. Nous avions tous des infections. À Carizac, comme à la prison d'Evine, j'ai vu qu'ils utilisaient des bouteilles pour violer les gens. 3 ou 4 de nos amis ont subi la torture par la bouteille. À Evine, ils avaient attaché à un arbre un détenu qui avait protesté et l'avait violé avec une bouteille. Les prisonniers qui avaient ordre de balayer la cour avaient été témoins de ce viol.
En tous les cas, Mohsen Sazegara, Ladan Bohoumand, vous êtes à Washington, nous le rappelons, nous sommes en duplex avec vous. Vous êtes un des grands dissidents qui soutiennent et qui coordonnent l'action actuelle en Iran, qui s'est intensifiée depuis la contestation des élections présidentielles truquées du 12 juin 2009. Ladan Bohoumand, qui est elle aussi militante iranienne des droits de l'homme, qui est historienne et qui nous aide beaucoup dans cette émission, puisque c'est elle qui traduit votre parole, voudrait, je crois, vous poser une question à partir de Paris.
Concrètement, quel rôle ils jouent ? Comment les gens de l'intérieur, ces militants leaders individuels, se lient à lui, le contactent et comment lui facilite et aide la coordination des différentes forces qui sont un petit peu indépendantes tous en Iran, dans ce réseau vaste et décentralisé ? Quel est son rôle et comment il aide ? J'ai pris sur moi d'étudier toutes les expériences des luttes non violentes dans l'histoire du monde, mais aussi dans l'histoire de l'Iran, et d'en faire une synthèse et de transmettre cette connaissance aux jeunes militants à l'intérieur de l'Iran. Et c'est ce que je fais au quotidien. Chaque jour, j'enregistre un programme de 10 minutes que je mets sur mon site internet, mais aussi sur YouTube, sur Twitter, sur le Facebook, mais également par Bluetooth. C'est des documents qui sont très légers que les gens peuvent décharger sur leur téléphone portable à l'intérieur de l'Iran. Et donc, ainsi, je diffuse cette connaissance et cette expérience des luttes non violentes au quotidien. Nous pensons que dans l'ensemble, à peu près quotidiennement, 500 000 personnes reçoivent ces messages, ces programmes enregistrés. Et en plus, une fois par semaine, j'ai un programme, un débat et commentaires des informations sur le Voice of America, la Voix d'Amérique. Et on pense que 20 à 30 millions de personnes regardent ce programme hebdomadaire. Bien entendu, récemment, le gouvernement lance beaucoup de parasites sur les programmes de la BBC et les programmes de la Voix d'Amérique.
Alors, Mohsen Sazegara, vous avez connu de l'intérieur l'État de la République islamique. Vous avez été un des fondateurs de ses piliers, ceux qu'on appelle les gardiens de la révolution. Où voyez-vous la force de cet État et peut-être où se trouve la fêlure ?
نقطه ضعف اصلی حکومت جمهوری اسلامی رو
les points faibles du régime, principalement, c'est la théorie fondatrice de cet État, qui est une théorie religieuse, qui en fait constitue sa grande faiblesse, parce qu'elle a donné naissance à une constitution qui, dans le dynamisme que crée cette constitution, désorganise le pays. Au lieu d'organiser et de gérer le pays, rend le pays, la mise en œuvre et l'application de la Constitution rend le pays totalement ingérable. De sorte que le gouvernement, qui est supposé rendre des services et gérer l'État et répondre aux besoins des citoyens, est totalement incapable de le faire. Et donc, la situation est chaotique. Et sur le plan économique, les gens sont très, très mécontents.
Mohsen Sazegara, la dernière remarque que vous avez faite correspond à la critique qui a été faite par un autre dissident qui vient du cœur du régime, peut-être du cœur encore plus que vous, le fils de Khomeini, si je ne me trompe pas, ou le petit-fils, je ne sais plus, qui s'est désolidarisé, qui est lui-même un homme de religion, formé dans le séminaire de Qom, et qui s'est désolidarisé du concept fondé par son grand-père, le Velayat al-Faqih, sur quoi est organisée la République islamique, le gouvernement du clerc, ce concept qui essaie de positiver le théologico-politique, en somme, en disant, le petit-fils de Khomeini, disant, avec ce concept, c'est la religion qui se trouve ruinée d'une part, et la politique.
Bale, din vakti vared siyasat.
C'est tout à fait cela. Quand la religion se politise, en fait, c'est la religion qui devient vulnérable. Parce que comme les fondements de la religion requièrent un choix libre, une fois que les préceptes de la religion sont imposés par la violence et la force, c'est en fait la religion qui est détruite et qui devient très très vulnérable.
Sous contrainte.
Sous contrainte, absolument.
Mohsen Sazegara, parmi les analyses qui m'ont paru intéressantes, je ne sais pas si vous avez lu cet article qui est paru le 12 février dernier dans le New York Times et qui est écrit par un grand connaisseur de l'Iran, Ruel Marc Grecht, qui était un ancien de la CIA, il faut le dire aussi, mais en même temps historien et chercheur, où il essaie d'analyser justement la situation en mettant en perspective la possibilité d'un avènement de l'Iran vers la liberté, ce qui faciliterait la tâche aussi de l'action des Occidentaux à l'égard de ce pays et du danger qui nous vient de ce pays, particulièrement à propos du nucléaire. Et cet Américain, ce Ruel Marc Grecht, pense que la stratégie d'Obama est peut-être la bonne dans le sens où, dans la dynamique propre à l'Iran, c'est cette dynamique propre qu'il faut soutenir parce que d'elle peut advenir un Iran éclairé par la notion et le concept de liberté.
En tout état de cause, le changement de régime en Iran, c'est bien évidemment l'affaire des Iraniens et non pas l'affaire d'un État étranger. Cependant, la manière dont l'État iranien traite ses citoyens peut être l'affaire de la communauté internationale. Et en faisant pression sur l'Iran pour le gouvernement iranien pour qu'il arrête cette répression et cette violence d'État contre ses propres citoyens, bien entendu, la communauté internationale peut aider le mouvement démocratique dans sa marche vers la victoire. Et il est également évident qu'en réussissant, la victoire du mouvement démocratique en Iran va changer les équations internationales dans lesquelles, en ce moment, la communauté internationale est empêtrée.
Mohsen Rouholamini était avec nous à Karizak. Il avait des vertiges. Il avait reçu beaucoup de coups à la tête. Il nous a dit qu'il avait été arrêté dans les manifestations. mais il ne comprenait pas pourquoi il était en prison. Il avait été tellement torturé qu'au niveau de la taille, il était couvert de blessures infectées. Je pouvais voir son dos. Nous étions tous plus ou moins dévêtus. Il y avait des déchirures sur la peau de son dos. Nous avions tous été battus. Même Hossein avait été battu avec une violence particulière au moment de son arrestation dans la rue. Il semblait qu'il avait plusieurs os fracturés. Il m'a dit qu'il était le fils d'un haut fonctionnaire du régime. Il ne savait pas s'il devait le dire à ses interrogateurs. Je lui ai dit que je ne savais pas non plus s'il le fallait ou pas. Je n'ai jamais su s'il le leur a dit ou pas. Il faisait partie de ceux qui étaient fréquemment interrogés. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand on nous a transférés à Evin. Il était presque inconscient. On l'a porté jusqu'au bus. Il mourut à notre arrivée à Evin.
Comment vous interprétez Mohsen Sazegara, vous qui nous parlez de Washington? Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes en duplex avec Washington. Nous sommes ici à Paris en studio avec l'historienne et militante des droits de l'homme iranienne Ladan Bohroumand, qui a l'amabilité de traduire pour nous les propos de notre interlocuteur de Washington, Mohsen Sazegara, le coordinateur de la dissidence et de l'opposition démocratique à partir de Washington. Comment interprétez-vous deux derniers discours qui semblaient coordonnés, qui semblaient simultanés, un discours d'Ahmadinejad qui semble annoncer à l'Iran et au monde que son gouvernement prévoit et se prépare à une guerre qui aurait lieu au printemps ou à l'été prochain, d'une part, et d'autre part, un discours de Nasrallah qui semble aussi jouer l'hypothèse d'une intervention militaire d'Israël au Liban et menaçant Israël qu'ils répondront dent pour dent et que si la banlieue de Beyrouth, où se trouve en somme la capitale des chiites au Liban, est atteinte, ce sera Tel Aviv qui sera atteinte.
Un coup d'état chiha arzouye qalbishun ine ke
yek. Les putschistes, c'est ainsi que les partisans du mouvement vert appellent Ahmadinejad, en fait, veulent une guerre ou des démêlés militaires avec l'étranger pour l'utiliser pour régler leurs problèmes intérieurs, comme l'a fait à l'époque le gouvernement argentin. Et il n'est pas étonnant que Ahmadinejad, en même temps que Nasrallah, ait fait allusion à une telle éventualité. C'est vraiment, ce serait pour eux un don du ciel qui les aiderait à surmonter pour un certain temps leurs problèmes intérieurs. Et en y faisant allusion tous les deux au même moment, c'est qu'il peut-être le signe qu'ils cherchent à provoquer une telle intervention, justement. Et ça, ça peut devenir très dangereux pour la situation internationale en général.
Donc, il y a de la provocation de la part d'Ahmadinejad à propos de l'uranium, à propos de tout ce qui tourne sur l'atome, une volonté de vouloir provoquer une intervention militaire qui, évidemment, par là, il chercherait peut-être une relégitimation.
Bale. Va mohemtar az Ahmadinejad general-hay coup-d'état-chi sepah hastand ke.
Oui, et plus important que Ahmadinejad lui-même, ce sont les généraux du corps des gardiens de la révolution qui cherchent à provoquer parce qu'ils pensent que si à un moment donné la répression de la population n'a plus de résultats et ils ne sauront plus quoi faire avec le mécontentement populaire, à ce moment-là, effectivement, ils pensent à un certain aventurisme sur le plan international. Et il n'y a pas qu'Ahmadinejad. Récemment, un des généraux, des gardiens de la révolution, a parlé de fermer le détroit d'Ormuz. Et ça aussi, c'est une manière de provoquer la communauté internationale.
Vous ne pensez pas, vous qui connaissez bien de l'intérieur le rapport des forces, Mohsen Sazegara, que c'est vraiment présomptueux de leur part et que c'est jouer avec le feu? Je vous parle en tant qu'Arabe immunisé par deux monstrations arabes qui, en fait, étaient des monstrations qui ne correspondaient pas à la réalité du rapport de force. C'était des faibles qui se disaient forts. Nasser, en 1967, en essayant de fermer justement un autre des trois, cette fois-ci, celui de Aqaba, et en menaçant cela aussi, et nous savons qu'il a perdu la guerre en 4 heures, tellement l'ennemi était plus fort, et Saddam Hussein, en 1991, avec le Koweït en 1990, on lui a raconté n'importe quoi en lui disant qu'il était à la tête de la 4e armée du monde, et on a vu comment, face à la confrontation militaire, ça a été la déconfiture absolue. Vous ne pensez pas qu'ils iraient dans la même direction et que ce serait proprement catastrophique, idiot, présomptueux, orgueilleux?
Vous avez tout à fait raison. Nous sommes aussi, cela fait partie d'une de nos grandes inquiétudes, que les petits dictateurs de nos pays, à l'instar des dictateurs auxquels vous avez fait allusion, entraînent le pays dans une aventure catastrophique et lui fassent encore plus de mal qu'ils ne l'ont déjà fait.
Mohsen Sazegara, tout ce que nous souhaitons, et je pense que la communauté internationale devrait jouer au plus fin, c'est justement de ne pas entrer dans ce jeu de la guerre et de soutenir le plus possible ce mouvement dissident qui nous vient de l'intérieur et qui se répercute, et cela me paraît immensément important, sur les Iraniens qui sont à l'étranger. Ce jeu du dehors et du dedans nous paraît majeur. Parce que, évidemment, pour le monde, pour la région, un Iran démocratique, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Un désengagement de la Palestine, un désengagement du Liban, ces engagements mauvais qui corrompent encore plus une situation corrompue, et un désengagement de l'Irak probablement, et une exemplarité démocratique, parce que lorsque Khomeini avait pris le pouvoir, son effet a été catastrophique sur toute la région. On n'est plus là dans la dichotomie, la distinction chiite-sunnite.
Tout à fait, et une de nos demandes les plus sérieuses et les plus insistantes à la communauté internationale, c'est de ne pas entrer en guerre avec ces généraux putschistes de l'Iran et d'éviter de tomber victime de la provocation.
Est-ce que vous auriez, Ladan Boromonde, désir de poser une question à Mohsen Sazegara sur un point qui peut éclairer davantage nos auditeurs sur la situation actuelle de l'Iran?
Oui, j'aimerais lui poser la question du moral en ce moment, des militants et du mouvement vert à l'intérieur de l'Iran après l'effort redoutable du gouvernement d'organiser des manifestations officielles pour le 11 février. Quel a été l'impact sur les militants à l'intérieur et sur les manifestants potentiels qui n'ont pas pu sortir pour mille et une raisons? Où en est aujourd'hui psychologiquement le mouvement vert?
Hukumat mikhast 620,000 nafar ro az sarasar kishvar.
Par rapport aux événements du 11 février, le gouvernement misait sur une manifestation du moins de 320 000 personnes qu'ils auraient mobilisées et qu'ils amèneraient de partout, de tous les coins du pays pour la manifestation officielle. Mais en réalité, ils n'ont réussi qui a amené 200 000 personnes et pour dire qu'a loué les services de 200 000 personnes. Et ça, c'était en réalité une grande victoire pour le mouvement vert, parce qu'ils ont pu voir qu'en mettant tous ses efforts et son énergie, le gouvernement ne peut pas mobiliser plus que 200 000 personnes pour une manifestation. Mais comme depuis juin, avec les manifestations et la grande mobilisation, les jeunes militants en Iran avaient pris l'habitude d'être toujours beaucoup plus nombreux et victorieux dans chaque étape des manifestations depuis le mois de juin 2009, certains étaient un peu déçus par le fait qu'il y a eu quand même 200 000 manifestants chez les adversaires. Et il est de notre devoir d'expliquer à ces jeunes gens qu'on ne gagne pas tous les matchs 3-0. Et des fois, on est 1-1. Et c'est normal, ça n'a pas d'importance. Le rendez-vous maintenant est pris pour le mois de mars, qui est le mois qui précède les fêtes du Nouvel An iranien, Nowruz. Et les événements préalables, c'est le 21 mars. Et donc, à ce moment-là, avec un mode d'organisation différent afin de mieux protéger les militants de la répression étatique. Un des rendez-vous que le mouvement a pris avec l'histoire, en fait, c'est le festival du feu, le dernier mercredi de l'année chez les Iraniens. Il y a une grande fête où on fait des feux le dernier mercredi avant le 21 mars.
Encore quelque chose à ajouter, un dernier mot, Mohsen Sazegara, une recommandation. Nous arrivons en fin d'émission et on voudrait avoir, une orientation pour nos auditeurs et nous-mêmes.
Non, فقط تشکر خودم رو مجدداً از مردم فرانسه و مسئولین فرانسه باید ابراز بکنم.
Non, il remercie encore une fois le peuple français et les responsables, les autorités françaises pour leur soutien et leur solidarité.
Merci infiniment Mohsen Sazegara, le coordinateur de l'opposition démocratique et de la dissidence en Iran, coordination entre les forces de l'intérieur et les soutiens à l'extérieur. Vous nous parliez de Washington. Merci infiniment à l'historienne et militante des droits de l'homme, Ladan Boroumand, elle n'est pas traductrice, loin de là, mais c'est par devoir militant pour servir son pays, pour servir la cause des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté dans le monde que Ladan Boroumand s'est prêtée à ce jeu. Je rappelle, Ladan Boroumand, que vous dirigez une fondation, la Fondation Boroumand, qui mène tout un travail d'enquête très précis sur les victimes de la répression de la révolution islamique.
Oui. Surtout les gens qui ont été tués, un mémorial qui documente l'histoire de chaque personne tuée, assassinée ou exécutée. Et la Fondation milite fermement contre la peine de mort en Iran.
Merci donc à vous deux, Mohsen Sazegara de Washington, Ladan Boroumand de Paris. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, coordination Dominique Competissa, technique et son Philippe Palares, réalisation mise en onde François Connac. Merci à eux trois.